Si vous voulez vous tourner avec moi dans la lettre, dans le livre, pardon, de Néhémie, on souhaite la bienvenue à un visiteur de Seattle, de la région de Seattle, Ben Anstadt, qui est avec nous ce matin. Nous connaissons aussi ses parents d'avant même qu'ils aient été mariés, donc c'est une joie de le recevoir. Néhémie, chapitre 6, si je le trouve, ça sera formidable. Voilà, page 490 dans la Bible à la colombe, pour ceux qui ont cette version ou qui ont emprunté une Bible. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous l'as confiée. Tu l'as d'abord confiée à ces hommes qui, sous l'inspiration de l'Esprit, l'ont écrit, Seigneur, l'ont écrite, et tu as assuré sa préservation, sa propagation, Seigneur, sa protection. Merci parce que nous pouvons être sûrs quelle est la vérité, Seigneur. Nous pouvons fonder notre vie sur elle, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui l'a inspirée et qui nous aide à la redécouvrir, Seigneur, qui l'a, pour ainsi dire, agi comme un modem pour le mettre dans le cœur et sur le papier, qui peut reprendre ce même papier, ces mêmes textes, et les rendre vivants à nos cœurs et pour nos vies, Seigneur, à nos âmes. Je te remercie pour les exemples de vie que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, et apprends-nous, aide-nous à recevoir tout l'enseignement que tu as pour nous, pour chacun de nous qui est peut-être différent à tel ou tel moment de nos vies, Seigneur. Mais tu veux nous parler ce matin. Seigneur, aide-nous à vouloir t'écouter et à vraiment recevoir de toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous le demandons. Amen. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont chez eux des projets inachevés? Je n'ai pas demandé de lever la main. Il y a assez de sourires pour voir que je ne suis pas le seul à avoir des projets inachevés chez moi. Ces choses qu'on commence plein d'enthousiasme, et puis devant l'ampleur de la tâche, on se décourage et on se dit « à quoi bon ?» On pourra faire ça le mois prochain ou l'an prochain, ou quand telle ou telle chose seront arrivées. Je vois de mes yeux en ce moment, là, en regardant vers le coin de la table du son, un projet inachevé. Projet qu'on avait commencé il y a quelques années, de refaire la peinture sur ce... C'est en fait Mitch et Christine qui nous avaient aidés à préparer le terrain, et puis on leur a dit, vous en faites pas, on repeindra. Et puis on s'habitue à l'état d'inachèvement. C'est dangereux. Et on va voir que souvent ces projets qui traînent, ces projets qui n'aboutissent pas, on a dit, on commence avec plein d'enthousiasme, plein de motivation. Le problème, c'est la démotivation, la division, la distraction du projet. Et on va voir dans ce passage aujourd'hui des leçons nous expliquant comment on peut combattre ces choses et arriver à terminer des projets. Ces projets inachevés, ils ont la fâcheuse habitude de nous décourager quand on les voit inachevés. Par contre, lorsqu'il y a quelque chose qui est terminé, quelque chose qui, peut-être pas parfaitement, souvent la perfectionnisme est un danger. On ne fait pas parce qu'on n'a pas assez de temps ou on ne va pas pouvoir le faire. Néhémie nous donne une leçon de courage, de persévérance, de concentration et d'achèvement. Son projet, c'était un grand projet, c'était de rebâtir la muraille autour de Jérusalem. Sans faire un retour en arrière trop détaillé, sachez que les enregistrements sont en ligne, mais après l'exil des Juifs à Babylone, qui avait été à son tour conquise par la Perse, ce Juif, Néhémie, s'était retrouvé serviteur du roi de Perse, Artaxerxès. Il était son échanson, c'est lui qui goûtait son vin, ses repas, avant que l'empereur ne les consomme. Et de par cette proximité avec l'empereur et par le sérieux de son travail, il avait établi une relation de confiance qui fait que, par une succession de faits, il avait acquis l'accord de l'empereur de retourner bâtir cette muraille autour de Jérusalem. On sait que cette muraille, elle était en ruine depuis 152 ans. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais pour vous donner une idée du temps, ça remonte à 1849 ou 1851. Un projet qui est en ruine depuis 1851. Une construction qui a été dévastée, qui a été brûlée, qui... ça fait un bail. Et le Seigneur lui a mis sur le cœur, il lui a donné la faveur des autorités, lui a donné des ressources par l'intermédiaire de ses autorités pour aller et rebâtir. Aujourd'hui, on n'a pas le même concept des murailles physiques, mais on sait que c'est politiquement et économiquement, c'est tout aussi important de mettre des murailles de protectionnisme ou des murailles d'échange régulés pour pas se faire envahir, pour pas disparaître en tant que nation. Alors la nation, c'est un concept un peu décrié de nos jours, mais il n'empêche, c'est la culture à laquelle on est attaché, c'est les traditions, c'est une richesse pour un peuple que d'avoir une culture nationale. Et à l'heure de la mondialisation, on a tendance à penser que c'est pas important. Mais on voit que ça amène des bouleversements, des choses qu'on ne souhaite pas nécessairement voir arriver. Et ce projet, il avait, comme tous les projets, connu de l'opposition. On a déjà examiné certaines de ces oppositions. La Bible nous dit qu'il est important qu'on soit au courant des ruses, des tactiques de l'ennemi. Nous avons un ennemi, si nous sommes chrétiens, qu'on le veuille ou non. Il y a un être puissant qui n'est pas de la même capacité que Dieu. Il est une créature par le Créateur, le diable, Satan, l'ennemi, celui qui nous veut du mal, qui nous calomnie, c'est ce que veut dire le mot diable, celui qui est notre adversaire, c'est ce que veut dire Satan, et qui s'oppose à tout ce qui va glorifier Dieu. Son désir, c'est d'être glorifié à la place de Dieu. C'est l'orgueil. Il était un ange de lumière, un chérubin, un directeur de la chorale divine. On voit ça dans les prophètes Ésaïe 14, Ézéchiel 14. Et il a voulu se faire aussi grand que Dieu. Il est un peu comme la grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que le bœuf dans la fable de La Fontaine. Finit par exploser, si on fait ça. Il va exploser, mais en attendant, il nous cause bien des tracas. Et il a des tactiques, il n'est pas très imaginatif, parce qu'il n'a pas besoin d'être très imaginatif. Les mêmes ruses qu'il utilisait il y a 1500 ans ou plus récemment, elles marchent encore parfaitement pour nous qui sommes aveuglés par lui et qui tombons dans le panneau à tous les coups si nous n'avons pas le discernement qui vient de l'Esprit-Saint, si nous n'avons pas la parole de Dieu dans nos cœurs, si nous n'avons pas la communion fraternelle pour parler des choses qui nous entourent, des choses, des situations qui nous posent problème. Dieu nous a tout donné pour ne pas tomber dans le panneau. Il avait donc commencé ce travail malgré l'opposition. Il y avait eu des oppositions venant du dehors, des ennemis qui se déclarent ouvertement, qui veulent calomnier, qui veulent menacer, et puis aussi de l'intérieur, la division, le découragement. Les tactiques n'ont pas changé. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier ces textes et de voir et d'apprendre à reconnaître ces tactiques. Paul nous disait « Je ne veux pas que vous soyez ignorants, mes frères, de ces tactiques. » Il nous parlait aussi de plein de choses où il disait « Je ne veux pas que vous soyez ignorants. » Au sujet des dons de l'esprit, par exemple. Et ce qui est remarquable, c'est que Satan sait que si Paul nous dit de ne pas être ignorant, il fait tout pour nous aveugler encore davantage. Aujourd'hui, il y a une grande confusion, par exemple, au sujet des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont pour aujourd'hui. Certains disent que c'était pour les périodes apostoliques, jusqu'à ce que le canon, la totalité de l'Écriture soit donnée. D'autres ne vivent que par les dons. Ils ne cherchent pas à produire les fruits. Ils veulent recevoir des dons et s'en glorifier. Et comme toujours, c'est dans l'équilibre fidèle à la parole qu'on trouve la vérité. Lisons ensemble les premiers versets. Chapitre 6, verset 1. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes, Sambalat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. » Je leur envoyai des messagers avec cette réponse « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous ?» Ils envoyèrent quatre fois le même message et je leur rendis la même réponse. Ces ennemis, on en a déjà parlé dans les versets précédents, Sambalat, le Horonite, Tobia, le serviteur, qui était Ammonite, Geshem, qui était Arabe, pardon, et d'autres ennemis. On a vu que souvent, ces gens qui ne peuvent pas se sentir les uns les autres, qui sont ennemis les uns des autres, ils s'unissent lorsqu'ils trouvent un ennemi commun. Et peut-être vous avez déjà vécu ça dans votre vie. Tous ces ennemis, ils apprennent que Néhémie a rebâti la muraille. En fait, ils précisent, c'est pas fini, c'est pas terminé. Il n'a pas passé encore la dernière couche de peinture, mais il a mis l'enduit. Ça devrait suffire, n'est-ce pas, chérie ? Non. Il est conscient qu'il n'a pas encore remis les battants des portes. La muraille, plus loin, on verra qu'elle n'était pas construite jusqu'à sa hauteur maximum. Elle était à mi-chemin. Mais c'était déjà une réalisation remarquable. Et les ennemis commencent à prendre Néhémie au sérieux. Au départ, ils se contentaient de se moquer de lui. Vous vous souvenez, on avait vu qu'il disait « Oh, ils sont incapables de construire quelque chose qui soit solide. » C'est vrai que parmi les maçons, les ouvriers, Il y avait tout le monde. Il y avait même des parfumeurs, il y avait même des bijoutiers qui sont sans doute très bons pour faire des boucles d'oreilles, mais pour construire des blocs sur blocs, on peut en douter. Et donc, il ridiculisait, et on a vu que c'était une des tactiques de l'ennemi d'utiliser le ridicule, de se moquer de vous lorsque vous avez des projets à cœur, partir en mission, servir sur un champ de mission. L'ennemi va dire, toi, tu te moques de qui? Tu veux faire du tourisme? Tu vas pas supporter la chaleur. Puis toi qui es si organisé là-bas, tu vas péter les plombs. Hein, ça. Je te conseille de revoir, c'est pas sérieux. Toute ressemblance avec une personne parmi nous n'est pas fortuite. C'est la moquerie. Et puis, c'est vrai que au départ, on est tout feu, tout flamme quand on dit, puis quand on voit la réalité de la chose, on voit les difficultés administratives, les difficultés de transport, les difficultés médicales, les vaccins qu'il faut avoir, tout ça, ça nous refroidit. Mais il continue. Ses ennemis voient que ça n'a pas marché. Ils ont même essayé de menacer par la force. On va vous attaquer. Ça n'avait pas marché. Il avait utilisé les divisions intérieures. On a vu que ça marchait pas. Maintenant, les ennemis essayent de faire diversion. Ils montent une petite intrigue. Ils voient que ça devient sérieux, que il serait temps d'intervenir vraiment. Et il propose à Néhémie d'avoir une petite conférence de paix, d'avoir une petite entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Les commentateurs anglais aiment bien ce nom d'Ono. Parce qu'ils disent, quand on vous propose un compromis, une entrevue, de façon à régler vos différences, ayez à la tête cette réaction, oh non, surtout pas. Lorsqu'on vous appelle à descendre de votre travail, de vos principes, de ce que vous faites pour Dieu, c'est une invitation au compromis. Et ça, c'est une attaque de l'ennemi sur nous tous à tout moment. À tout moment, il nous dit, oh, faut pas être si légaliste. Il n'y a rien de mal à fréquenter un jeune homme qui n'est pas chrétien. Je pense que si je lui parle, j'ai senti qu'il était ouvert. Puis s'il vient, s'il voit tout le monde si gentil ici, il va vouloir venir. Prenez garde. Ça, c'est l'appel à venir à Ono. Oh non, n'y allez pas. Et une petite phrase à la fin du verset 2, ils avaient médité de me faire du mal. Néhémie combat cette invitation au compromis par le discernement. Le discernement, c'est quelque chose qui nous manque à tous. Discernement, c'est quelque chose qu'on doit demander à Dieu, c'est quelque chose qu'il est prêt à nous donner si nous lui demandons. C'est comme la sagesse venue d'en haut, dont Jacques nous parle, qu'il donne si nous la lui demandons. Le problème, c'est qu'on pense tous que ce sont les autres qui manquent de discernement. Parce que nous, on n'est pas bêtes, puisqu'on est douaniers. Non, ça c'est une vieille blague. On pense tous avoir du discernement. Non seulement nous les chrétiens, mais tous les hommes. C'est pour ça qu'on élit quelqu'un à 60% et puis 3 mois plus tard, on dit, si on avait su, on l'aurait élu avec 30% des voix. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas été élu. Pourquoi ? Parce qu'on manque de discernement. On se laisse embobiner. Et je reviens aussi à ça pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui cherchent l'homme ou la femme comme âme sœur. Prenez votre temps, exercez du discernement. Le discernement, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de juger des choses selon le point de vue de Dieu. Et non selon les apparences extérieures. Il est gentil, il m'a dit qu'il était intéressé, il a été baptisé quand il avait 2 mois et demi, donc il a une influence chrétienne dans sa vie, et il me dit qu'il m'aime et que c'est Dieu qui lui a dit que je devais l'épouser. Difficile de dire non. Regardez dans 1 Samuel, ça va en Néhémie, 1 Samuel 16, dans la Bible à la colombe, c'est page 294 du Nouveau Testament. Dieu avait envoyé Samuel oindre un des fils d'Isaï. Il y avait plusieurs fils. Et on juge des choses selon le point de vue humain. Et on oublie même... Son père ne parle même pas de lui. Bonne fête les papas. Son père ne parle même pas de lui. Parce qu'il est, c'est le dernier, le petit rejeton qui s'occupe des brebis qui bêlent dans les champs. Et il présente à Samuel ses frères. Il voit Eliab d'abord. Et puis Abidanab, Shama, et à vue humaine, ces hommes ont l'air superbes, costauds, grands, beaux parleurs, diplomates. Ils feraient des rois parfaits selon Samuel. Et il faut que l'Éternel intervienne au verset 7 en lui disant « Ne prends pas garde à son apparence et sa et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce qu'un homme considère, de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et il va falloir que l'Éternel montre du doigt David, pour qu'il le considère enfin, et qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu que Dieu avait déjà vu en lui. Les autres voyaient un petit gosse pas important, Dieu voyait en lui un homme selon son cœur. Le discernement, c'est même un don de l'esprit pour lequel vous pouvez prier. On peut le recevoir une fois, mais je crois qu'on peut continuellement être rempli du Saint-Esprit et lui redemander de raviver nos dons. Dans 1 Corinthiens 12, 10, page 196 dans le Nouveau Testament, lorsque Paul parle des dons, il nous rappelle au verset 7 que ces dons sont donnés pour l'utilité commune. En parlant de mauvais usage des dons spirituels, c'est pas pour vous mettre en valeur, c'est pour que vous serviez les autres autour de vous, que vous serviez le corps de Christ. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Savoir reconnaître si quelque chose vient de l'Esprit Saint ou de mauvais esprits. Et puis il continue en parlant des langues, diverses sortes de langues. Et puis un nom très important, l'interprétation des langues, sans lequel on ne doit pas exercer publiquement le don des langues. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un don, c'est quelque chose qu'on reçoit. Vous pouvez avoir reçu un don musical. Alexandre a le don de jouer du violon. Il avait un don musical sans conteste quand il est né. Mais je n'ai jamais demandé combien d'heures il avait dû jouer quand il était jeune, par jour. Peut-être il va me dire je jouais une heure par mois, mais ça s'exerce. Votre don, il faut l'exercer. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de cette grande épître, cette grande lettre, peut-être Paul, peut-être Apollos, on n'est pas sûr. Pour moi, j'ai tendance à penser que c'est Paul. Il dit que quand on est jeune chrétien, souvent on manque de discernement. Mais qu'on doit, en prenant de l'âge et en recevant la nourriture de la parole, en grandissant dans la vie chrétienne, en s'impliquant dans la vie chrétienne, en servant, en étant entouré, en priant, en lisant, en connaissant la Bible, en l'apprenant, en la mémorisant, en la pratiquant, on devrait grandir. Verset 11 de ce chapitre 5, page 249. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer, parlant de la parole de Dieu et de points de doctrine importants. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore des enfants alors qu'ils devraient être des hommes et des femmes mûrs dans la foi. Et souvent le problème, c'est qu'on ne leur a pas donné le lait, le pain et la viande de la parole. On est surpris des fois de rencontrer des gens qui sont chrétiens depuis 10, 20, 30 ans, voire toute leur vie, et à qui on peut raconter n'importe quoi. Et c'est pour ça que tous les nouveaux vents de doctrine trouvent un terrain où ils peuvent s'attiser et commencer à produire des dégâts. Il y a quelques années, c'était la bénédiction de Toronto. Oh là là, dans les églises, si on croyait pas à la bénédiction de Toronto, on était un vieux rétrograde, loin de Dieu, même pas sauvé. Le feu a brûlé sur les terres de ces chrétiens non établis. Puis il s'éteint tout seul. Quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu parler de la bénédiction de Toronto ? Où les gens tombaient par terre, se roulaient, faisaient des bruits d'animaux. C'était le signe que l'esprit était là, à l'œuvre, oh là là ! Ne vous laissez pas, mes frères, mes sœurs, trompé par ces bêtises, connaissez la parole, Apprenez la parole. Allez dans des églises qui enseignent la parole. Si on est là à faire du sensationnel semaine après semaine pour exciter les gens, pour les faire venir, pour qu'on puisse avoir des ressources pour bâtir l'église, et ayez du discernement. Celui qui en est encore au lait, il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pas faits comme des rats, mais les hommes mûrs, matures, les hommes et les femmes. Pour ceux, soulignez ça dans votre Bible, ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pas du jour au lendemain qu'on a un don de discernement parfait. Il faut l'exercer, il faut vivre dans des situations, essayer de demander à Dieu de nous donner ce discernement, voir lorsque on a pensé comprendre quelque chose, voir après avec le recul si c'était juste ou si c'était pas. Essayer de voir pourquoi on s'est trompé. Est-ce qu'il y avait peut-être de l'égoïsme dans notre appréciation de la situation? Est-ce qu'il y avait de l'ambition? Est-ce qu'il y avait des choses qui ont pollué notre discernement? Mais avec le temps et l'exercice de ce don de discernement, vous pouvez prier pour un don particulier, tous nous devrions avoir du discernement et ne pas nous emballer pour le dernier orateur qui arrive en ville. Je suis toujours surpris par ces affiches qu'on voit dans la ville. Il y a un pasteur qui arrive du bout du monde, d'Afrique, de Chine, je ne sais pas où, et qui va faire une révélation sur l'Église, à l'Église de Dieu en France. Le gars vient, ses supporters louent une salle à un prix incroyable, Acropolis, des prix fantastiques. On ne sait pas d'où viennent les fonds. Les gens qui entendent parler de ça, leur pasteur leur en parle pas. Ils se disent, s'il nous en parle pas, c'est qu'il y a une raison. Il veut pas qu'on y aille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va tous, puis on se passe le mot. C'est pratique maintenant les réseaux sociaux. Puis on va se laisser en berlificoter par le gars qui reprend l'avion le lendemain ou le soir même pour retourner en Nouvelle-Zélande après avoir empoché son chèque de la part des chrétiens qui se sont fait plumer. Le discernement, exercer le discernement. Néhémie, de par sa vie, il avait appris à exercer ce discernement et il avait su qu'en fait, l'idée de la conférence était pour le tuer ou l'isoler, pour l'emprisonner, lui faire du mal. Et j'aime bien sa réponse verbale. D'abord ce discernement qui lui dit, il y a quelque chose qui cloche. Il leur dit, j'ai quelque chose d'important à faire. Je fais un grand ouvrage. Pourquoi est-ce que j'interromprai l'exécution de cet ouvrage pour aller discuter avec vous, vous voir? Ils lui disent, viens, on va prendre une tasse de thé ensemble. Finalement, nos positions sont pas si différentes, c'est pas grave, on voit maintenant que tu es sérieux, on peut coopérer, on peut oublier nos différends. Et il dit, non, je vais pas me laisser distraire, je fais quelque chose d'important. Vous devez considérer que tout ce que Dieu vous a conduit à faire pour lui, que ce soit être une maman, une mère de famille, qui enseigne ses enfants dans les voies de Dieu, qui leur parle de Dieu, un papa qui parle, qui prie avec ses enfants, qui parle de Dieu, qui prie avec ses enfants, c'est une grande tâche. C'est une tâche importante. Peut-être que l'ennemi, voyant que vous faites ce travail, va essayer de vous distraire. Distraction. Il va vous dire, mais c'est dommage, tu pourrais aller enseigner, tu connais bien la Bible, maintenant il y a une opportunité d'aller enseigner tous les jeudis soirs ou tous les mardis soirs lorsque les enfants ont besoin d'elle. Et donc, là encore, dans toutes nos situations, nous devons les passer au crible du discernement de Dieu. Est-ce que je vais être conduit à abandonner quelque chose que Dieu m'a donné d'important à faire? Et les distractions, les sollicitations, sachez qu'il y en aura toujours. Même le dimanche matin, on m'a invité à aller à une partie de pêche avec en bateau, là, au thon, au gros. Donc je vais pas, c'est pas grave si je viens pas. Alors je dis pas qu'on doit être légaliste et qu'on doit, mais il faut voir, est-ce que c'est l'ennemi qui essaye de nous distraire ou est-ce que c'est une distraction légitime? Et là, il a ces paroles, je fais un grand ouvrage, j'ai un grand ouvrage. Quel est le grand ouvrage auquel Dieu vous a appelé? Peut-être c'est de réussir dans vos études en étant un témoin à l'école de votre foi. Peut-être c'est de vous engager dans l'école du dimanche, où il y aura des besoins pendant l'été. Mais bon, le grand ouvrage, c'est très important de considérer que ce qu'on fait est important. Quelle que soit l'ampleur, l'impact de la tâche. C'est important, pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu vous a donné de faire en ce moment. Le passage le plus important de la Bible, quel est-il ? C'est Néhémie 6.3, en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on est dessus, le Seigneur a fait de toute éternité qu'on se retrouve pour parler de ce verset important qui nous dit qu'il ne faut pas mépriser le travail de nos mains. La tâche que nous avons à faire aujourd'hui, quelle qu'elle soit, même si c'est d'aller pointer à Pôle emploi, c'est une grande œuvre. Et si vous la faites en donnant 100% de vous-même, avec votre énergie, vos dons, vos capacités, une attitude positive, une attitude qui cherche à aider les autres, qui n'est pas quelqu'un qui cherche à recevoir mais à donner, vous allez accomplir cette œuvre. Et il dit non au compromis. Et encore une fois, souvent, le compromis pour nous, c'est la parole de Dieu. Oui, on est d'accord, on est tous chrétiens, on vivra tous ensemble. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. Le problème avec cette attitude, c'est que qui êtes-vous pour décider ce qui est vraiment de Dieu et ce qui ne l'est pas ? Toute parole de Dieu est inspirée, voire 2 Timothée 3.16, et nous pouvons avoir confiance qu'elle est véritable. On peut fonder notre vie sur elle. Ils persistent. Verset 4, ils reviennent 4 fois à la charge. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on dit non facilement la première fois, la deuxième fois on dit « bon, je vais voir ». Troisième fois, bon, ben écoutez, je vais réfléchir encore un peu. Et les gens, les ennemis, l'ennemi revient à la charge. Les enfants sont très, très bons pour faire ça avec leurs parents. Papa, je peux y aller? Oh. À chaque fois, il est ferme, il rend la même réponse. Et puis après, il monte la pression. Verset 5, sans Balaam envoya ce même message une cinquième fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations et Gachmou, c'est le même que Geshem, affirment que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille, tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet, il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Donc maintenant, il va faire courir des rumeurs. Il va médire avec une lettre ouverte qui va être connue par tout le monde sur Internet, sur Facebook, qui va faire que l'empereur, lorsqu'il va apprendre qu'il a quelqu'un qui veut prendre son autorité en Juda, il va l'envoyer chercher et le faire exécuter rapidement. C'est ce qu'il dit. Le roi va finir par savoir. Alors, viens, on va discuter un peu comment on peut régler tout ça. La façon dont il réagit à cette... Ça, c'est un autre point, c'est les fausses accusations avec lesquelles Satan nous attaque. Les calomnies. Les fausses accusations. Verset 8, il lui dit, je lui fis répondre, ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. Verset 6, il était dit, il y a des bruits parmi les nations, très vagues. On dit que tu as fait ceci, on dit que tu as fait cela. Et il répond simplement, c'est faux. Il n'entre pas dans un argument, dans un débat avec celui qui répand des calomnies. Des fois, il y a des gens bien intentionnés qui viennent me dire, il y a un tel qui a dit ça de toi, j'ai failli lui casser la figure, mais je veux que tu saches. Je dis, non, moi je veux pas savoir qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur coin. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que je reste fidèle à ce que Dieu me demande. Et il ajoute, tous ces gens, verset 9, voulaient nous rendre craintifs et se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Il voyait clair encore dans ce que les gens faisaient. Il voulait utiliser la peur. Dieu ne va pas vous motiver par la peur. Il répond aussi, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Il a le secret de ses petites prières, dont on devrait aussi avoir l'habitude aussi, les courtes prières. On n'a pas le temps de faire une grande prière éloquente en employant des formules chrétiennes, du jargon. Et hey, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et puis, verset 10, je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa, fils de Mehétabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Quelqu'un qui devait connaître déjà Néhémie, et qui lui dit, qui était autorisé à entrer dans le temple, et lui dit, viens. Il y a des gens qui veulent te tuer, on va aller se cacher ensemble dans le temple. Il essaye d'utiliser la peur. Encore une fois, on voit la fermeté, le caractère, la confiance de Néhémie. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre, je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu, verset 12, que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi, parce que Sambalat et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses amis et commettrais un péché, et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Il dit non. Il a le discernement, il a aussi la capacité de savoir que ce n'est pas quelque chose à faire. Je n'entrerai pas. D'abord, il voit une attaque à son caractère. Un homme comme moi prendre la fuite parce qu'on me menace de mort, pas question. Un homme comme moi entrer dans le temple, sous-entendu alors que je ne suis pas un prêtre et que la parole interdit strictement à tout non-prêtre d'entrer dans le temple, ça c'était le temple saint des saints, dans le temple central, pas le parvis, le lieu saint je veux dire. Pas question, je sais que selon la loi je serai réduit à mort par l'Éternel. Il avait du discernement, il avait la capacité de dire non parce qu'il connaissait la parole. Encore une fois, l'importance de grandir, de plus en rester au lait, de Jésus a un bon plan pour ta vie, accepte-le, tout va aller mieux. C'est vrai, Dieu a un bon plan pour votre vie, mais il y a une différence essentielle entre ce qui se considère bon et ce que vous, vous considérez bon. Il y a des bonnes épreuves qui vous attendent, parce qu'à travers ces bonnes épreuves, il va façonner votre caractère. Vous n'allez pas trouver que c'est des bonnes choses sur le moment. Mais Dieu connaît tout, le début de la fin, et ce qui est bon pour Dieu est bon en fin de compte. Il a réalisé, encore une fois, ce don de discernement fait qu'il est, il est capable de dire non, c'était pas un vrai prophète. En fait, un vrai prophète ne demanderait pas à quelqu'un de faire quelque chose contraire à la Bible. Ça, c'est un test très important pour vous dans votre discernement lorsque vous entendez des pasteurs, des soi-disant hommes de Dieu qui vous disent des choses. Allez vérifier comme les Béréens dans l'acte, livre des Actes, que ce que l'on vous raconte est conforme à la parole. Le faux prophète disait, viens, entre dans le temple. L'autre lui dit, attends, il y a un problème là. Je ne suis pas prête. Si je rentre dans le temple, je sais qu'il est dit dans le livre des Nombres que je vais être détruit. Et puis, si des gens viennent essayer de me tromper comme ça, ma tendance serait de dire, Seigneur, appelez, Seigneur, priez une de ces prières d'imprécation que David priait dans les psaumes. Du genre, remplis leur bouche de gravier et qu'ils leurs enfants soient fracassés sur les rochers. Non, il dit simplement, souviens-toi d'eux. Tu vois ce qu'ils font, je te laisse t'en occuper. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sambalat et de leurs œuvres, et aussi de Noadia, la prophétesse. Elle apparaît ici, elle avait dû contribuer à ces fausses accusations, ces fausses prophéties. Et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. Il s'en remet à Dieu. C'est un homme de prière. On essaye de le distraire, de le démotiver. Il est courageux, il a ce discernement. Il résiste aux fausses accusations. Et il n'a pas peur. Il a du courage. Et il voit dans cet épisode quelque chose à remettre à Dieu, sans plus, sans moins, et il continue le travail. Très important, ne vous laissez pas arrêter par les accusations, par les mensonges. Lorsque vous faites une œuvre, que ce soit quelque chose de public pour Dieu, que ce soit quelque chose même de privé, votre vie de prière, vous essayez de passer plus de temps dans la prière et l'ennemi vient vous attaquer. Vient vous dire c'est pas possible, etc. Dites-lui d'aller voir Jésus, d'aller en parler à Jésus. Et puis verset 15, la muraille fut achevée le 25 du mois d'Eloul en 52 jours. Ça faisait 152 ans qu'il y avait ce champ de ruines sur lequel des monceaux, des ordures, les pluies, de la boue, des squelettes d'animaux avaient dû s'entasser, des mauvaises herbes, des trucs brûlés, des carcasses de voitures, de chariots. En 52 jours, Dieu peut nous permettre d'accomplir en quelque temps, en peu de temps, des choses qui pour nous sembleraient prendre de voir des siècles. Nous avons le projet de voir, et on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'églises en France qui ont le projet de voir des églises s'implanter un peu partout. En 30 ans, on est passé de 50 églises à près de 1500 églises en France évangélique. C'est encore bien loin du compte, mais Dieu peut brutalement accélérer les choses si nous nous consacrons à la tâche, à la grande œuvre à laquelle il nous appelle. Et vous avez votre part à jouer. Vous dites, mais l'implantation d'église, c'est pas moi. L'implantation d'église, c'est déjà d'être présent à l'église où vous êtes implanté. Votre présence, elle est vitale. Et lorsque les ennemis, j'aime bien, voyez ça, verset 16, « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. » L'œuvre de Dieu, faite pour Dieu, soutenue par Dieu, va montrer la gloire de Dieu. Si vous voulez construire une église pour votre propre gloriole, si vous voulez faire de l'évangélisation pour qu'on dise celui-là, dis donc, il a mené au Seigneur 20 personnes dimanche dernier, quel grand homme, quelle grande femme. Alléluia, si vous avez ces dons, mais ne les utilisez jamais pour votre propre gloire. Néhémie, on a vu son humilité. Il n'avait même pas encore fini les battants des portes, mais là, il voit que la muraille, en 52 jours, puis c'est précis, on donne la date, presque l'heure, et les gens qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu, les païens, sont émerveillés. Puis la fin, en ces jours-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia, et celles de Tobia leur parvenaient. Car beaucoup en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était le gendre. Bref, Tobia avait des rapports avec certains des prêtres de l'époque. Il descendait de Bérékia, un des prêtres. Et ces gens-là disaient même du bien de lui en ma présence et lui rapportaient mes paroles. Il y avait des espions, il y avait des gens qui faisaient les intermédiaires. Et Tobia envoyait des lettres pour me rendre craintif. Ils ont tout essayé, mais Néhémie et rester ferme. L'œuvre s'est achevée. Pour terminer, juste évoquer, lorsque vous lisez la Bible, vous devez vous demander où est passé Aldo ? En français, c'est un autre nom, mais ce livre où il y a plein de dessins, pardon ? Où est passé Charlie ? En anglais, c'est « Where is Aldo ?» Waldo ? Peu importe. C'est un livre pour les enfants, pas seulement, on aime bien regarder, avec plein de petits personnages, et puis il y a ce personnage qu'on doit rechercher et trouver au milieu des... Lorsque vous lisez la Bible, des fois c'est bien évident, il est là dans toute sa splendeur, des fois il est tout petit comme Waldo ou Charlie qui est dans l'image. Cherchez toujours Jésus-Christ. Où est Jésus-Christ ? Il est clair qu'en fait, Néhémie, c'est une préfiguration de Jésus lui-même. Parce que lui aussi, Jésus, il a été attaqué. On a répandu des calomnies sur son compte. On a essayé de le faire mourir avant l'heure. Finalement, il est allé à la croix, il a accompli l'œuvre et il a dit « Tout est achevé ». Merci Seigneur qu'il n'a pas laissé la croix à moitié faite. Sinon, vous et moi, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ce merveilleux exemple de ténacité, de confiance en toi. Tu vois toutes les tactiques de l'ennemi auxquelles Néhémie a dû faire face. Aide-nous, Seigneur, à avoir le discernement de reconnaître ces mêmes tactiques dans nos vies, dans nos efforts de grandir en toi. Dans toutes nos activités légitimes, Seigneur, nous avons des démotivations, des divisions, des distractions. Il peut y avoir l'isolation, l'insinuation, l'intimidation. Seigneur, aide-nous à regarder à toi et ne pas faiblir et à continuer à travailler à la grande œuvre à laquelle tu nous as appelés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen.